Bonjour et bienvenue sur Bac FM. Vous êtes en compagnie de Faustine, de Francine, de Kéra et de Léna. Nous sommes élèves de la classe de première au lycée Raoul Follereau. Après avoir reçu l'autrice Inem Mekwar pour son roman « Souviens-toi des abeilles », nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer le dessinateur Lomig pour sa BD « Au cœur des solitudes », paru aux éditions Sarbacane en 2024. Bonjour Lomig.
Bonjour.
Cette interview a lieu dans le cadre du prix littéraire L'Échappée littéraire, organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, ce prix est ouvert à 40 lycées de la région et met en compétition 4 romans et 4 bandes dessinées. À l'issue des lectures, les lycéens et apprentis voteront pour leurs auteurs préférés.
Lomig, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Eh ben, je suis auteur de bandes dessinées depuis à peu près 10 ans. Je vis à Rennes, voilà. J'ai fait 5 albums, dont les deux derniers qui sont vraiment centrés sur la nature, sur l'écologie aussi. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre.
Pourquoi avoir choisi ce pseudonyme ?
Alors, Lomig, ça veut dire petit Guillaume. En breton, mon vrai prénom, c'est Guillaume. Et au début, quand j'ai commencé la bande dessinée, j'avais un travail à côté qui n'avait rien à voir. Et je préférais utiliser un pseudo pour un peu plus de discrétion sur cette partie de ma vie. Et vu que quand j'étais enfant, j'ai mis un peu de temps à grandir, tout le monde m'appelait le petit Guillaume. Je trouvais que ça avait du sens de mettre Lomig. Et tout le monde m'a dit que ça sonnait bien. Et puis, c'est resté depuis.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant de devenir auteur de BD ?
Alors oui, avant d'être auteur de BD, enfin moi, pour vous dire, j'étais pas à la base un lecteur de bande dessinée quand j'étais enfant, mais j'ai toujours beaucoup dessiné. En fait, c'était pour moi un moyen d'évasion. Dès que j'avais une petite feuille, des crayons, bah, je m'envolais un petit peu dans mon esprit, je m'inventais des histoires, quoi. Et puis c'est devenu aussi un moyen de communication, parce que j'ai commencé à faire des dessins humoristiques pour faire rire mes copains à l'école. Voilà, j'étais identifié comme le dessinateur de la classe, et j'ai fait des études qui ont complètement rien à voir avec le dessin, puisque j'ai fait des études dans le bâtiment, et je suis devenu chargé du réaménagement en fait, intérieur. J'étais assimilé architecte d'intérieur, quoi. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et la BD est rentrée un petit peu par hasard en fait dans ma vie. J'ai plus tout le temps dessiné parce que ce métier de cadre me prenait beaucoup de temps. Et un jour j'ai décidé de faire un voyage au Sénégal. Et mon frère m'a offert à cette occasion-là un petit carnet de voyage avant, un très beau carnet avec une couverture en bambou, tout ça. Et ça a été pour moi ce carnet l'occasion de redessiner, parce que c'était un voyage un petit peu à la route, je partais avec le sac à dos, quoi. Et donc je racontais un petit peu en dessin mes aventures, et il se passait la même chose qu'à l'école, c'est-à-dire que les gens venaient autour de moi pour voir mes petits dessins et rigolaient, quoi. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve un peu de place pour le dessin, et le hasard a fait que quelqu'un qui savait que j'aimais dessiner m'a mis en relation avec des gens qui faisaient du fanzine de bande dessinée, donc des amateurs de bande dessinée, quoi, qui faisaient une petite revue amateur, quoi. Et c'est eux qui m'ont appris à dessiner de la BD. J'avais 28 ans à l'époque, donc j'ai commencé vraiment tardivement. Et ils m'ont fait aussi surtout découvrir toute une facette que je connaissais pas de la BD. Moi, je connaissais la BD divertissement, mais eux, ils m'ont fait découvrir toute la BD sociétale, les romans graphiques, tout ça. Et j'ai compris qu'on pouvait parler aussi de sujets forts qui me touchent profondément aussi en bande dessinée, quoi. Et c'est un monde qui s'est ouvert à moi, et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas aussi en bande dessinée. Et rapidement après, j'ai progressé, je veux dire, et quelques années après, j'ai décidé de consacrer finalement ma vie à la bande dessinée. J'ai quitté mon ancien travail pour me consacrer à la BD. Ouais.
Nous avons fait quelques recherches sur vous. Nous avons découvert que vous êtes un dessinateur autodidacte. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Autodidacte, c'est-à-dire que moi, j'ai fait aucune formation. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je suis devenu professeur. J'accompagne les troisième années de bachelor BD illustration dans une école supérieure à Rennes. Mais moi, je suis complètement autodidacte, donc j'ai appris vraiment tout seul, grâce justement à ces personnes du fanzine, qui eux, avaient plus d'expérience, étaient des lecteurs aguerris. Hein. Et du coup, ils m'ont aidé à faire en sorte qu'on puisse reconnaître mes personnages d'une case à l'autre, parce qu'au début, c'était pas le cas. Je savais pas bien placer mes bulles aussi, tout ça. Donc, il y a plein de choses à savoir, vous savez, pour maîtriser un peu le storyboard, c'est-à-dire que la transformation de ce qui est écrit en dessin, hein, le brouillon de la bande dessinée en quelque sorte. Donc, ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses. Et à chaque fois que je faisais des erreurs, ils me publiaient quand même et ils m'expliquaient pour que je fasse de mieux en mieux. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser, mais en apprenant finalement tout seul, sans passer par l'école. Ouais.
Pourquoi avoir changé de registre en étant passé du dessin humoristique au dessin un peu plus sérieux, entre guillemets ?
Oui, parce qu'au début, je faisais des dessins, comme je vous disais, humoristiques à l'école. Et du coup, mes premières bandes dessinées, les trois premières, étaient aussi axées sur ce même axe. C'est-à-dire des dessins un petit peu caricaturaux quand même. Où vous voyez, je parlais beaucoup de la société, je parlais beaucoup du monde du travail, de la société de consommation, consumériste. Et du coup, ça allait bien avec cette façon de dessiner un peu humoristique. Donc ça me permettait, au début la bande dessinée c'était un vrai exutoire, j'ai vraiment besoin de parler de mon ressenti, du monde qui m'entourait, et d'une façon un petit peu drôle pour essayer de faire rire, mais avec un fond quand même assez noir, assez lourd. Et au bout d'un moment, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour en fait de cette question, de commencer à tourner un petit peu en rond, vous voyez. Et j'avais surtout aussi besoin de m'oxygéner, parce que tous ces BD étaient très urbaines et tout. Et moi, j'ai grandi à la campagne, dans le Finistère Sud, donc la nature est très importante pour moi. Et j'avais envie de remettre la nature, dessiner la nature, tout simplement. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire l'adaptation du roman de Jean Egland, Dans la forêt, qui est une BD vraiment très premier degré, très puissante d'ailleurs, une histoire très puissante. Et je sentais bien que ma façon de dessiner à l'époque, qui était de l'ancrage, vous voyez, au feutre, tout ça, n'allait pas correspondre à cette représentation de la nature. J'avais besoin de créer quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus texturé, en fait. Et là, très vite, j'ai eu l'idée d'utiliser le crayon, parce que je trouve que le crayon, il permet vraiment ça, de vraiment donner ce côté très expressif à la nature, un trait beaucoup plus délié, beaucoup plus libre, où on peut, vous savez, en appuyant plus ou moins dessus, apporter beaucoup de nuances, plus ou moins fortement sur le crayon, quoi. Et voilà, il y a quelque chose de chaleureux qui se dégage, et voilà, je pense que c'était la bonne technique. Par contre, c'était une technique, je vous cache pas, très longue, vraiment très très longue. Il fallait à peu près, pour finaliser une planche, juste pour l'étape de finalisation, deux jours par planche. Donc c'était un très très long projet.
Quelle valeur a ce concours pour vous, dans la mesure où ce sont des lycéens qui vous jugent ?
Bah, je suis ravi, parce que forcément, quand on fait des BD sur l'écologie, on a envie aussi que ça a une résonance auprès des jeunes gens. Donc ça fait vraiment plaisir que ce livre a pu avoir une résonance comme ça. Et puis, toujours être sélectionné dans un prix, c'est valorisant. Enfin, on sait que ça fait vivre aussi le livre, les prix, les coups de cœur des libraires, tout ça. C'est ça qui fait qu'on crée de l'échange, d'être là aujourd'hui, vous rencontrer à la radio, mais aussi rencontrer après vos camarades. Donc là, c'est des temps que j'apprécie beaucoup. Vous savez, on fait une bande dessinée avant tout pour... c'est pas juste pour travailler tout seul dans son coin, c'est avant tout pour partager. C'est ça qui me porte, moi, c'est d'essayer de toucher le cœur des gens sur des sujets qui me sont chers. J'ai l'impression que l'écologie, notre rapport à la nature, c'est vraiment l'enjeu majeur de toutes nos générations confondues. Bon, moi, je suis bien plus âgé que vous, mais tous ensemble, voilà, si on arrive à changer notre regard sur la nature, apprendre à l'aimer, du coup, si on l'aime vraiment profondément parce qu'on la connaît, on a envie de la protéger comme on a envie de protéger nos enfants, et si on est suffisamment nombreux finalement à changer notre regard, et ben on participe à changer le monde, et ça c'est hyper important, à mon sens, c'est primordial pour la suite.
Nous vous recevons pour votre bande dessinée Au cœur des solitudes. De quoi est-il question dans cette BD ?
Alors, Au cœur des solitudes, c'est une BD qui est inspirée de la vie de John Muir. Alors, c'est pas une biographie, c'est vraiment inspiré d'eux. J'insiste bien là-dessus, puisque John Muir, il parlait beaucoup de son trajet et puis de la nature qu'il voyait. Il en parlait avec beaucoup de poésie. Il avait une capacité à s'émerveiller en voyant les grands espaces et à transmettre ça par les mots. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humilité, qui m'a profondément touché, qui a un véritable message en plus à nous porter. En tout cas, c'est une BD sur John Muir, qui est considéré vraiment comme le premier écologiste moderne. Et voilà, c'est un monsieur qui a une vision très particulière en fait sur la nature, qui s'est complètement reconnecté, qui a été le premier finalement à s'engager et à sensibiliser ses contemporains à l'idée de créer des espaces naturels protégés, quoi, en fait, quoi. Donc, voilà, c'est cette vision du monde, ce sentiment de reconnexion, pour moi, c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce voyage, et c'est pour ça que j'ai, décidé de raconter son tout premier voyage, celui qu'il a entrepris, du coup, en 1867, donc juste après la guerre de Sécession, et suite à un accident où il a cru qu'il allait perdre la vue de façon définitive, et qui va se révéler encore plus beau qu'il avait imaginé, quoi, et qui va complètement transformer le monsieur, quoi. Donc moi, en racontant cette histoire, j'avais envie d'amener le lecteur à faire cette reconnexion en même temps que lui, quoi, comme si on voyageait à ses côtés, en fait, quoi. Donc c'est vraiment ça que ça raconte. Et évidemment, John Muir, c'est pas que ce premier voyage, donc j'ai aussi fait, à la fin, une genre de post-fast, où on raconte un petit peu tout ce qu'il accomplit ensuite, quoi. Il faut savoir que John Muir, c'est lui qui va être à l'origine du parc Yosemite, notamment aussi en Californie, Et on peut considérer que c'est grâce à lui qu'il existe encore des séquoias géants, par exemple, parce qu'à cette époque-là, bah, les bûcherons ne connaissaient aucune limite. Hein, partout où il y avait des arbres, ils les coupaient. Et voilà, et aujourd'hui, on peut encore contempler bah, des séquoias qui ont quand même 3000 ans. Quoi. Donc 3000 ans, ça, c'est hyper impressionnant. Quoi. Ça nous renvoie à l'époque des pharaons en Égypte. Quoi. Donc c'est des arbres très vieux. Et voilà, on lui doit tout ça et plein d'autres choses encore. Heureusement qu'il y avait des gens déjà à cette époque qui avaient cette sensibilité.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour dessiner cette bande dessinée ?
Alors au début, j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner dans la forêt le livre précédent. Donc je savais que je voulais mettre la nature au centre du coup de mon histoire suivante. Mais je ne savais pas tout à fait par quel biais. Et j'ai lu beaucoup de livres de personnes qui ont comme ça vécu des choses fortes dans la nature. Je pense à Aldo Léopold, Théodore Monod, Élisée Reclus. Et il y avait quelque chose qui ressortait de tous ces témoignages. C'était un sentiment de se retrouver soi profondément quand on est seul en pleine nature. Et que du coup ces gens-là avaient besoin d'y retourner parce que voilà, c'est une façon de se reconnecter en fait à eux-mêmes. Donc ça, je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Et du coup, moi-même, j'avais vraiment envie de raconter ça, hein, mais probablement l'histoire de quelqu'un qui comme ça, qui se perd un peu en pleine nature, qui finit par se reconnecter. Et quand j'ai fait lire ça à mon éditeur, Frédéric Lavabre, aux éditions Sarbacane, il m'a dit « Ouais, mais bon, c'est quand même une histoire très contemplative que tu nous racontes là, et puis ton personnage, on ne connaît pas, donc j'ai peur que les gens ne s'intéressent pas, quoi. » Et un peu plus tard, et ben, je suis tombé. Donc ça m'a fait réfléchir un peu. Quoi. Et un peu plus tard, je suis tombé sur l'affiche Wikipédia de John Muir que je connaissais absolument pas. Parce qu'il est très connu aux États-Unis, mais malheureusement pas beaucoup encore en France. Et là, je suis complètement séduit par son parcours et je me dis, ok, mais c'est ça son chaînon manquant. Quoi. Et vu que je connaissais pas, comment dire. Enfin, il parle très peu dans ses récits de voyage de lui-même, et ben, j'ai pris le temps de traduire toute sa correspondance pour accéder à son intime en quelque sorte quoi. Et là plus je creusais plus je me disais mais oui je me trompe pas quoi, il incarne complètement ce que je voulais raconter quoi. Donc voilà, c'est parti là-dessus et après bien sûr j'ai dû beaucoup romancer son histoire parce qu'il parlait très peu de lui-même et il parlait très peu aussi des gens qu'il rencontrait en voyage. Donc toutes ces parties-là, eh ben, j'ai dû finalement les inventer, les romancer quoi. Pour vous donner un exemple, par exemple John Muir quand il rencontrait un propriétaire d'une riche plantation de coton, il disait simplement qu'ils avaient parlé d'électricité quoi. Point, c'est tout ce que je savais quoi. Ensuite c'est moi qui ai décidé de développer les dialogues pour essayer de dresser un portrait de John Muir à travers ces personnages-là et aussi dresser aussi le portrait de cette Amérique de la fin du 19e quoi.
Combien de temps vous a pris la réalisation de cette BD ?
Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, vous savez, pour la finalisation, c'était 2 jours par planche. Mais avant ça, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Il y a une étape de recherche très importante, une étape d'écriture qui peut me prendre à peu près un an et demi entre l'écriture et rechercher vraiment la thématique. Et aussi récolter tout plein d'images, on appelle ça la recherche iconographique, qui vont après documenter, me permettre de savoir comment dessiner les villes, les tenues des gens, parce que c'est quand même une BD historique. Hein, donc ensuite, j'ai aussi une période d'études de personnages, où je fais un peu, c'est comme un casting au cinéma, si vous savez, mais je fais plein de petits dessins et je sélectionne un petit peu les têtes de mes différents protagonistes. Ensuite, je vais faire le storyboard, une étape qui est intermédiaire entre le storyboard, non, storyboard c'est le brouillon de la BD, hein, et ensuite il y a le crayonné qui me permet d'affiner ce travail-là, pour ensuite pouvoir le décalquer ce crayonné sur une belle planche pour finaliser mes planches, quoi. Tout au crayon, bien sûr, c'est très traditionnel hein, tout le long. Hein. Et donc en tout et pour tout, ouais, c'est 3 ans et demi, plus 3 ans et demi de travail. Ouais. Donc c'est toujours un peu spécial quand on passe autant de temps sur un livre, et enfin on le partage, quoi. Il y a un petit moment forcément d'émotion parce que ça a été un long parcours.
Votre première BD, Le Cafodile, a été publiée il y a 6 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir au cœur des solitudes ?
Ouais, c'est toujours le temps de trouver l'inspiration. Vous savez, moi j'ai vraiment besoin d'être hyper convaincu par ce que j'ai écrit pour me lancer dans ce long processus de travail. Donc voilà, c'est le temps de faire mes recherches et tout. Je suis pas un auteur qui sort une BD par an. J'aime bien prendre mon temps, mais c'est la faire au mieux. C'est mon rythme, mais j'essaie de le respecter. Parfois, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, surtout pour trouver les histoires. Là, je suis de nouveau dans cette période-là, donc c'est pas toujours très confortable. Mais voilà, je me dis si c'est le temps que demande l'album et que j'arrive finalement à faire le livre que je veux, que je souhaite partager, ben ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu plus, quoi.
Il est temps de faire une petite pause. Nous vous retrouvons après cet intermède musical choisi par Looming.
Oui, je crois que je vais vous proposer en fait un petit extrait de Into the Wild parce que je trouve ça beaucoup de résonance avec finalement le premier voyage de John Muir. Mmh,
mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Nous sommes de retour sur Bac FM pour cette émission consacrée à l'échappée littéraire. Nous sommes en compagnie de l'auteur Lomnig, que nous recevons pour sa bande dessinée Au cœur des solitudes.
Avant de parler plus en détail de votre bande dessinée, pourquoi avoir choisi cette musique ?
Je pense que c'est vraiment une histoire très forte aussi de reconnexion à la nature. Ça se passe pas forcément aussi bien, mais je trouve que tout ce que s'inspirer d'une histoire vraie aussi. Hein, et je trouve que finalement il y a des très très belles, très très belles images une musique très très forte aussi qui inspire vraiment au voyage. Voilà. Donc je pense que j'ai pensé tout de suite à ça.
À travers cette BD, quel message souhaitez-vous transmettre ?
Changer notre regard sur le monde, porter un regard beaucoup plus attentif. C'est vrai que si on se balade dans la nature avec notre téléphone ou en discutant avec des amis, on n'a pas du tout la même connexion que si on regarde vraiment autour de soi. Si on regarde la moindre petite fleur, on voit comment elle est constituée, les textures, les couleurs, enfin c'est magnifique. Quoi. Et puis il y en a plein d'autres à côté, il y a une diversité incroyable. Et là on se rend compte qu'on vit dans un monde magique et merveilleux. et d'une grande beauté. Donc c'est vraiment ce regard-là qui est nécessaire et qui nous permet de nous retrouver, nous aussi, nous rapprocher de l'essentiel. Il y a une phrase de John Muir que j'ai mis un peu en exergue et qui dit un peu tout, c'est « je pars dans la forêt pour perdre mon esprit », donc tout ce qui est notre activité cérébrale, on est souvent dans des sociétés où tout est rapide, on part dans tous les sens, on court beaucoup, pour retrouver mon âme, c'est-à-dire nous retrouver en fait nous-mêmes. C'est vraiment ce regard-là, de prendre le temps, se retrouver nous-mêmes, remettre le vivant au centre des choses, je pense que c'est vraiment important. Et donc, voilà, c'est ce message que dit John Muir. Vous savez, quand il a été autorisé ce premier voyage, il a aussi il a dit qu'il se sentait en fait comme une abeille qui sortait pour la première fois de la ruche et qui voyait tous les jardins en fleurs, quoi. Et ben, c'est un esprit en fait qui serait bien, quoi, quand on se balade, de se rendre compte que c'est pas un décor autour de nous, la nature, tout est vivant et on fait partie de tout ça. Et voilà, je trouve que sa façon de voir les choses, c'est pas une vision un peu angoissante. Des fois, on parle un peu des chiffres, de la destruction de la biodiversité et tout ça, et puis on se dit oh là là, mais dans quel monde on vit. Là, je trouve qu'il y a, une façon très poétique pour lui de voir les choses et qui peut vraiment un peu réenchanter notre transformation aussi nécessaire, à mon sens.
Avez-vous un lieu fétiche pour travailler ?
Oh là là, oui. Alors, pour travailler, je partage mon temps entre chez moi, donc j'ai un espace assez confortable chez moi pour travailler, mais aussi un atelier qui est un super lieu à Rennes, donc pas loin d'une bouche de métro, mais on a la chance d'être dans un corps de ferme avec une cour fermée ou tout, donc on peut manger dehors quand il fait beau. On a aussi une cuisine et un petit salon au rez-de-chaussée de cet espace, donc pour que ce soit un lieu un peu convivial. Donc du coup, je suis pas un dessinateur ours, quoi, en fait, hein. J'ai vraiment plein de copains et c'est vraiment presque plus qu'un lieu de vie qu'un lieu de travail d'ailleurs. Et là, j'ai mon petit bureau à côté des copains, mais je peux pas y être tout le temps parce que vous savez, quand les copains sont là, on met la musique, on rigole beaucoup et c'est pas un lieu où on peut trop se concentrer. Donc quand j'ai besoin d'écrire, je vais plutôt être chez moi quand même. Mais je vous cache pas aussi que j'ai aussi besoin de toujours ces petites fenêtres dans la nature, hein, parce que pour moi, ça m'aide vraiment quand je commence un petit peu à avoir l'inspiration, plus savoir où j'en suis, ces petites balades aussi, ces petites parenthèses en nature me font énormément de bien. Et j'ai tout de suite ressenti ce bienfait de la nature, mais très très jeune. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, mes parents avaient une maison dans le Finistère Sud, et il y avait une petite forêt à côté avec une rivière qui coulait, et c'est un endroit où j'allais tout le temps. Je faisais des cabanes, des radeaux pour descendre la rivière. Des fois, on faisait des barrages pour faire monter le niveau de l'eau, pour pouvoir sauter dans l'eau. Et puis, quand je me sentais mal, c'était aussi un lieu refuge. Je sentais que ça me reconnectait à moi-même et ça chassait vraiment toutes les pensées parasites pour me recentrer sur l'essentiel. Donc, c'est un lieu toujours là, le lieu de ma jeunesse où j'aime bien aussi aller passer du temps pour me retrouver. Et c'est souvent des lieux qui m'inspirent beaucoup, voilà, en pleine nature.
Comment trouvez-vous l'équilibre entre le texte et l'image dans une case ?
Vous savez, la première étape, c'est l'écriture. Au début, je fais qu'écrire. Aujourd'hui, je fais quasiment que écrire. Je dessine peu, même si je dessine quand même beaucoup, mais c'est plus pour faire des dédicaces parce que il y a une grosse promotion. Donc, ça fait un an et demi que je tourne un peu partout en fait en France. Donc, c'est toujours un peu les mêmes dessins qui reviennent. Donc voilà. Bon, une fois que l'écriture, le scénario a été bien écrit, vous savez, un scénario de bande dessinée, c'est très écrit. Hein, c'est un peu comme pour le théâtre ou pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on crée un séquentiel, c'est-à-dire le squelette un peu du récit. Et ensuite, dans chaque séquence, on va détailler quels sont les protagonistes, les personnages qui sont là, où se passe la scène. Et ensuite, c'est essentiellement du dialogue, quoi. Et à partir de ce scénario abouti, on va voir un peu la quantité de texte et qu'on va essayer de diffuser un peu dans chaque dessin. Donc c'est pour chaque séquence, on essaye comme ça d'établir un petit peu quel type de dessin on va mettre. Est-ce qu'il faut que le dessin soit un peu en retrait parce qu'il va avoir beaucoup de texte, ou alors est-ce qu'on va plutôt essayer de raconter par le dessin, parce que le dessin forcément raconte beaucoup aussi, hein. Des fois, il y a pas, vous avez remarqué dans ma bande dessinée, il y a beaucoup de pages qui sont sans texte, hein. Donc là, vraiment, tout s'équilibre un peu naturellement pour essayer de trouver le bon rythme, quoi. Les passages où il y a beaucoup de dialogue, les passages de silence, les passages où je vais utiliser simplement une voix off, c'est-à-dire les pensées de John Muir, et on crée un peu l'équilibre comme ça au fur et à mesure. Au début, le storyboard, c'est très très compliqué parce que voilà, quel cadrage on choisit, est-ce que c'est un plan large, est-ce que c'est un plan rapproché, est-ce que c'est un gros plan qui permet de montrer l'émotion, etc. Est-ce que je vais choisir un angle de vue en plongée, en contre-plongée, qui vont aussi faire ressentir d'autres choses en fait au lecteur. Donc c'est beaucoup beaucoup de choses à penser pour créer un premier storyboard, mais avec l'expérience, ça devient une façon d'écrire. Vous voyez, ça devient plus naturel, voilà. Comme peu importe ce qu'on fait dans la vie, hein, si vous faites de la musique, du théâtre, je sais pas, du basket, enfin, plus on pratique, plus on apprend, on a une certaine maîtrise, en fait, tout simplement, quoi. Voilà. Et toute l'histoire, c'est donner le bon rythme, parce qu'avant tout, en bande dessinée, ce qui est important, c'est raconter une histoire. Les dessins, c'est presque secondaire, quoi. Ils s'adaptent au récit, en quelque sorte.
Est-ce que vous dessinez tout sur papier ou est-ce que vous vous aidez d'un logiciel en particulier ?
Non, moi je fais partie des auteurs qui sont très traditionnels. Donc moi ce que j'aime avant tout c'est en mettre aussi du crayon un peu plein les mains. Je suis au crayon, donc vous savez ça s'étale un petit peu. Et j'aime bien ce côté contact avec le papier. Et je pense que je trouve déjà que je passe assez de temps sur l'ordi pour répondre aux mails, pour les réseaux, voilà. Et moi j'aime bien avoir ce rapport au papier comme je l'avais quand j'étais enfant, côté matière. Et du coup j'utilise très très peu l'ordinateur. En fait il va simplement me servir à la fin pour nettoyer mes planches quand elles ont été scanner et puis insérer les dialogues. C'est à peu près tout, en fait, l'utilité que j'ai avec l'outil, le numérique, on va dire. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de dessinateurs, même à mon atelier, utilisent les tablettes et tout pour travailler. Ça permet de gagner sur mon vitesse et tout. Mais moi, vous savez, je voulais pas du tout faire une BD rapide. Hein, je crois que je l'ai déjà dit aussi, mais je pense que j'aurais pu difficilement trouver une technique de dessin plus longue que celle-là. Mais pour moi, ça avait beaucoup de sens. Vous savez, en fait, la forme rejoint le fond. Je veux amener un ralentissement, qu'on prenne le temps de regarder autour de nous. Donc moi, amener un dessin comme ça, très fouillé, que les gens se rendent compte que j'ai pris beaucoup de temps à le réaliser, bah c'est peut-être accrocher leur regard pour qu'ils passent lentement en fait, sur mes images, les unes après les autres, pour vivre vraiment l'expérience de John Weir. Donc il y avait une vraie volonté de ça. Et voilà. Et puis en plus, vu qu'il y a beaucoup de sorties en bande dessinée par an, bah comme ça, moi je suis pas partie des auteurs qui noient le marché. Il faut les attendre, mes livres.
Avez-vous toujours su que vous vouliez être dessinateur ?
Non. Quand j'étais enfant, j'ai pas du tout cette idée-là. Pour moi, là, je lisais les BD un peu comme un divertissement, mais voilà, aucun moment je m'étais dit que je voulais être auteur de bande dessinée. J'en lisais très peu, en fait. Hein, je lisais plutôt des romans, à vrai dire. Hein. Donc, mais par contre, j'aimais beaucoup le dessin. Donc, je pense que si on m'avait dit que j'allais faire un métier plus tard autour du dessin, j'aurais adoré. Mais il faut dire que quand j'en ai un peu parlé à mes parents, ils m'avaient dit non, mais n'importe quoi, tu n'auras jamais du travail là-dedans. Et tout, donc je pense que très vite j'avais mis ça de côté. Et vous voyez, hein, ça j'aime bien le dire aussi à des jeunes gens en fait comme vous, parce que des fois on prend un chemin comme ça dans la vie parce que c'est pas évident de choisir à votre âge. Moi c'était compliqué pour moi aussi. Et des fois, vous voyez, on prend une route et puis la vie nous amène dans un autre sur un autre chemin, et c'est assez magique. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai fait ce choix là. C'était pas un choix facile parce que j'avais un métier où je gagnais très bien ma vie que j'ai quitté à une époque, mais j'ai jamais regretté ce choix. C'était un choix de cœur. Et tout de suite, j'ai senti que même si c'était un peu compliqué financièrement, j'étais très content de me lever tous les matins pour faire ce boulot. Et aujourd'hui, rien n'a changé. J'aime tout dans mon travail, aussi bien la création que les moments d'échange que cela procure, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression d'être complètement moi-même, alors que peut-être dans mon précédent métier, j'ai aussi plutôt l'impression de jouer un rôle, quoi, en fait, quoi, de devenir presque même, tristement, un peu un homme robot, quoi, qui gère plein de trucs, mais qui ne sait plus trop bien qui il est.
Y a-t-il un dessinateur qui vous a particulièrement influencé, voire inspiré ?
Non, je dirais pas ça. Pas vraiment, non, parce que j'étais, comme je vous disais, j'étais pas très attiré par le média au départ, donc j'ai pas eu une influence comme ça qui peut vraiment être un peu un grand maître. J'ai découvert un peu la BD, enfin la BD que j'aime, en tout cas tardivement. Mais il y a plein de choses, effectivement, plein de livres qui aujourd'hui qui me plaisent beaucoup en bande dessinée. Je trouve qu'on est sûrement un peu dans l'âge d'or de la bande dessinée. Il y a énormément de styles graphiques et c'est hyper impressionnant. Il y a toujours des nouveautés qui sortent. On se dit, mais waouh, c'est magnifique. Et aussi au niveau des scénarios, quoi. Maintenant, tous les sujets sont abordés. Donc, c'est hyper riche ce qui se passe dans la bande dessinée, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Je ne sais pas si je peux en citer, mais comme Pedroza, J.P., Larsenet. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très différentes que j'apprécie beaucoup dans la BD actuelle, quoi. Mais je peux en citer beaucoup. Hein, mais...
Dans votre BD, John Weir dit qu'il faut se tenir aussi près que possible du cœur de ses solitudes. C'est d'ailleurs le titre de votre BD. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi le choix du titre ? Il y a deux choses. Il y a la solitude qu'on connaît tous, hein, le fait d'être seul, qui n'est pas forcément négatif, hein, comme je vous l'ai dit, mais moi j'en ai vraiment besoin par moment de me retrouver seul, même si je suis très sociable. Et il y a une autre dimension qui est aussi les grandes solitudes. Alors les grandes solitudes, ça veut dire quoi ? Il semblerait que c'est le mot qui soit le plus proche de wilderness, qui veut dire les espaces sauvages où les hommes ne vont pas. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que John Muir, il va seul dans les espaces sauvages où habituellement les hommes ne vont pas. Et on suit le cœur parce que vous savez comment cette histoire, ça commence par un accident, hein, il perd la vue, il pense qu'il ne va pas la recouvrer. Et du coup, il est dans le noir. Et à la fin, il recouvre la vue totale. Enfin, et il voit non seulement avec ses yeux, mais il voit aussi avec son cœur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rajouter ça au cœur des solitudes. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu de poétique aussi dans ce titre. Donc ça, voilà, ça c'est, je l'ai trouvé presque tout de suite. Et l'éditeur, il n'a jamais remis en question comment il a été créé.
Dans cette aventure, la solitude est omniprésente. Représente-t-elle une épreuve pour le personnage ou une forme d'épanouissement ?
Je trouve d'épanouissement, c'est un moment, c'est quelque chose qui s'autorise enfin à lui-même. Je pense qu'il venait d'une éducation très très dure à cette époque-là, où la valeur travail était très marquée. Elle est toujours, hein, mais à cette époque-là, elle était peut-être encore plus. Et surtout une éducation aussi au niveau de la religion, parce que du coup son père était protestant et il l'obligeait à prendre les versets de la Bible par cœur, sinon il recevait des coups de bâton. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait s'autorisait très très peu de liberté, c'est pour ça que ce voyage qu'il a eu du mal à entreprendre, hein, il a pas eu cet accident de la vie pour qu'il décide finalement de se lancer dans ce périple, était comme ça c'est important quoi, en fait, quoi.
Comment l'accident de John Muir a failli le rendre aveugle, a influencé son rapport au monde et sa décision d'entreprendre ce voyage?
Vous savez, des fois, moi c'est ça qui m'a parlé aussi, c'est qu'il faut parfois un accident de la vie pour changer de voie, quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Je vous ai parlé un petit peu de mon parcours à moi, où je faisais un métier qui n'a rien à voir, et il a fallu que finalement ça se passe un peu plus difficilement pour aussi que je passe dans une autre voie qui finalement m'épanouit beaucoup plus. Donc voilà, lui s'est passé aussi par ça. Je pense que ce moment, voilà, bon, il y a cet accident du coup à l'usine où il se crève les yeux, hein, donc il reste en chambre sombre avec confiné, parce que vous savez qu'on est blessé gravement aux yeux, il ne faut pas être en contact de la lumière le temps qu'il cicatrise. Donc il espère, là, mais sans trop d'espoir, que finalement la cicatrice soit suffisamment fine pour que la lumière continue à passer à travers ses cristallins, quoi. Et ce temps qui va durer quand même plusieurs mois, ça va vraiment lui permettre de réfléchir sur ce qu'il veut vivre, sur ce qui est important. Et là, il se rend compte à quel point il est triste de ne pas avoir des belles images naturelles dans son esprit, qu'il a que des éléments mécaniques parce qu'il a travaillé qu'à la ferme ou à l'usine, quoi, en fait, quoi. Donc c'est vraiment ce temps, cet accident qui lui permet de vraiment de prendre une autre perspective, d'avoir vraiment du temps pour se consacrer en fait à lui-même et savoir un peu ce qu'il veut, quoi. Et c'est pour ça que quand il guérit, il y a une seconde chance, et là pour lui, il n'a pas hésité. Il a pris ses clics et ses claques, il a mis des petites choses dans son sac et puis dans son baluchon, et puis il est parti faire ce voyage incroyable, 2500 km quand même à pied, à travers que les espaces sauvages, quoi.
Dans cette BD, vous utilisez une palette de couleurs oscillant entre le noir et le blanc. Pouvez-vous expliquer ce choix ?
Ouais, effectivement, pas beaucoup pas de couleurs. Dans ce projet, on a quand même essayé. Enfin, moi, je me sentais pas capable de le faire. C'est-à-dire que finalement, j'aime écrire, j'aime dessiner, mais la couleur, c'est pas un truc qui me plaît énormément à faire. Je m'ennuie souvent à faire ça. Et puis surtout, il y avait 160 pages, donc c'était un gros boulot. Alors, je vous ai déjà parlé qu'il me faut 3-4 ans déjà pour faire une BD, donc ça rajoutait encore beaucoup, beaucoup de temps. Et les essais couleurs n'ont pas été concluants. On a fait appel à un coloriste, indépendant, et ça n'a pas été concluant. Et on s'est dit avec l'éditeur que ce serait mieux de privilégier l'intensité que permet le noir et blanc, la texture aussi que permet le crayon, qui avait tendance à être écrasé dès qu'il y avait une couleur qui venait dessus. Et faire confiance au lecteur, dans le sens qu'on connaît tous les couleurs de la nature, mais que c'est pas facile de leur rendre hommage, parce que voilà, on va arriver bientôt au printemps, on va voir, les couleurs vont exploser en fait de partout. Donc on s'est dit que c'était peut-être mieux de laisser comme ça, et puis que les gens allaient ensuite les imaginer, et ça fonctionne. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent au festival de bande dessinée, on a commencé votre BD en noir et blanc, mais très vite on l'a vu en couleur au final, quoi, parce qu'on les connaît toutes, les couleurs de la nature, bien sûr.
Au cours de son voyage, John Muir rencontre des personnes vivant dans des conditions misérables. Il émet le souhait que des temps meilleurs viendront où les hommes placeront leurs frères mortels dans leur cœur. Pensez-vous vraiment qu'un jour cela sera possible ?
Oui, j'espère beaucoup. Oui, voilà, j'espère vraiment une société où finalement le vivant soit au centre des intérêts et pas l'économie comme aujourd'hui. Il me semblait que pendant le confinement, il y avait une prise de conscience aussi générale, alors qu'on voit qu'aujourd'hui nos politiques finalement reprennent le même discours qu'avant, peut-être encore plus dur. Donc ça me rend un peu triste. Donc j'espère qu'un jour, effectivement, je verrai ça. J'ai des enfants qui ont à peu près votre âge aussi. Et pour eux, tout ça, ouais, j'espère qu'il y aura un autre possible qui s'installera petit à petit. Voilà. Moi, j'essaye à ma façon aussi de travailler en ce sens, en faisant des bandes dessinées. C'est une forme d'engagement, même si j'ai bien conscience, hein, que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais au moins, ça me donne le sentiment d'essayer de faire quelque chose, quoi.
Quelle a été la plus grande difficulté à représenter dans cette bande dessinée ?
Alors, j'ai rencontré deux difficultés principales. Ça a été la représentation de la ville de New York, parce qu'il y avait très très peu de photos à cette époque, 1867. C'est pas évident, donc il fallait faire attention de ne pas faire des ponts qui n'existaient pas, des immeubles trop hauts. Donc, c'était pas évident d'avoir toutes les infos pour ça. Donc, c'était plus au niveau des recherches, de ne pas faire d'erreurs. Et sinon, c'est une image qui m'a demandé beaucoup de fil aussi à retendre, c'est la vue en perspective d'une route qui va au cimetière de Savannah. Je ne sais pas si vous voyez cette image où il y a des chaînes qui sont tout le long du chemin avec de la mousse espagnole qui pend en fait des branches. Et je devais faire attention de rendre ça un peu clair dans mon dessin et j'ai un peu sué. C'était vraiment pas facile de dessiner cette planche.
Comment voyez-vous l'évolution de la BD aujourd'hui, notamment avec l'utilisation du numérique et de l'IA ?
Oui, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant parce qu'elle peut utiliser... moi, vous savez, mon style graphique, il a évolué au fil du temps. C'est pour la rendre de plus en plus singulière et voilà, et savoir que l'IA peut utiliser ça et faire, par exemple, des dessins à la Lomic, que sais-je, c'est un peu inquiétant. Et ce qui m'inquiète le plus... Après, ça peut être aussi très utile, hein, ça, je le dis pas. Mais moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que ces technologies entre les mains de personnes auxquelles j'ai pas du tout confiance, c'est ça qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui, c'est des dérives que ça peut générer, quoi, en fait, quoi. Donc ça peut, dans l'absolu, j'ai rien contre l'IA et je pense que ça peut vraiment nous aider, mais attention, parce que voilà, et puis à mon sens, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à l'IA, c'est qu'elle n'invente pas, quoi, et elle reprend ce qui existe déjà, elle les retravaille et tout, donc on a besoin, faut pas que ça prenne la place des créateurs humains, quoi. Ce serait terrible.
Cette émission spéciale Échappée littéraire touche à sa fin. Nous étions en compagnie du dessinateur Lomig pour sa bande dessinée Au cœur des solitudes. Merci Lomig d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne journée et restez sur Bac FM.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.